Radio de la Paix.
Reportage.
La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso font face à des tentatives d'implantation de groupes armés non étatiques, les Ghanais, dans les zones frontalières où la fragilité favorise leur influence. Les jeunes privés de perspectives deviennent vulnérables au discours de recrutement de ces groupes. Pour renforcer la cohésion sociale et prévenir les conflits et l'extrémisme violent, l'ONG CLIRA, en partenariat avec l'UNICEF, met en œuvre le projet Résilience à dos jeunes et développement dans la région du Bunkani. Un atelier a été organisé pour élaborer des modules support de formation impliquant l'engagement des adolescents, jeunes et femmes de Bouna. Ce méso-élément vise à analyser quelques causes profondes des récurrentes tensions sociales liées aux relations entre agriculteurs et éleveurs dans le Bunkani, relater ce qui est fait et décliner des envisageables alternatives. Et enfin, insister sur ce que pourrait être l'impact de l'engagement des jeunes et des femmes face à la violence asymétrique dans le nouveau contexte du climat changeant. De Bouna, ce reportage vous est offert par Jérôme Kouassi, Radio de la Paix. Dans le contexte actuel d'extrémisme violent de 2021 à 2025, les conflits agriculteurs et éleveurs en Côte d'Ivoire découlent principalement de la nouvelle migration forcée des éleveurs, des terres en partage et la ressource en eau explicite à l'entame le chargé de projet de CLIRA, Children's Life in Rural Area, Kwasi Yao.
On sait que depuis quelques années, les frontières de Côte d'Ivoire sont pénétrées par les demandeurs d'asile du contexte sociopolitique qu'il y a dans les pays voisins tels que le Burkina et le Mali. Ces velléités d'extrémistes violents font que les populations qui y vivent sont obligées de se déplacer et de venir demander l'asile. Cette migration-là conduit à des crises puisqu'ils viennent trouver des communautés autres qui sont pour la plupart agriculteurs. Donc c'est dans ce cadre-là que cette initiative-là est été piloté par l'UNICEF.
On a par moments exhorté les gros éleveurs à vendre des bêtes pour diminuer la taille de leur bétail. Mais les différends entre agriculteurs et éleveurs ont de tout temps existé, nous rappelle Sir Stanislas de l'ONG Les Toits du Bunkani.
Du coup, c'est un problème récurrent, c'est un problème qu'on voit tous les jours. On ne cesse tant mieux que mal d'apporter des solutions à ça. C'est même pour cela que nous sommes rassemblés aujourd'hui. On raconte donc la présence de nos frères qui fuient leur pays d'origine pour chercher la sécurité ici en Côte d'Ivoire. Et fort est de constater que ces personnes aussi ont des biens qu'ils se déplacent avec, entre autres les bétails. Et ce problème encore, qui existait déjà en Côte d'Ivoire, va se voir agrandir ou s'est vu agrandir dans la localité du Bunkani.
De ces micro-tensions mal gérées éclate le conflit intercommunautaire d'août 2016 à Bouna. Soro Daouda est le coordinateur de l'association des éleveurs de bovins du Bunkani.
Ça sera vraiment le module sur la gestion des ressources pastorales. Il y a des couloirs de temps immense qui pratiquement n'existent plus et du coup qui sont à l'origine de plusieurs conflits, notamment les conflits agriculteurs-éleveurs qui malheureusement nous ont fait vivre le cas de l'année 2016 et dont nous avons encore les arbres cette année.
Bredou Christelle de l'OIM.
C'est que toutes ces pistes qui étaient là avant sont colonisées par toutes les cultures de rente qu'on a actuellement. Ce qu'on perçoit comme grave, c'est que ces cultures-là ne vont pas s'arrêter aujourd'hui.
Des comités villageois et des commissions sous-préfectorales de gestion de ces conflits ont été installés. Mais toujours les agriculteurs qui pratiquent des cultures saisonnières de façon anarchique se heurtent aux besoins constants des éleveurs en pâturage et en eau pour leur bétail, ce qui génère des dégâts de culture. L'avis partagé du directeur de l'encadrement, du suivi et de l'évaluation des acteurs sociaux au ministère de la Cohésion nationale, Aguelo Christian Arnaud.
D'où le fait que c'est le bétail est obligé forcément de passer dans ces champs-là, donc de détruire ces champs, ce qui provoque énormément de conflits, et ce qui est une particularité vraiment de la région du Bunkani. Donc cet atelier-là vient à point nommé, afin de pouvoir réfléchir et trouver des solutions idoines pour plus ou moins atténuer ces conflits-là.
Pour une meilleure compréhension des enjeux, les concepts de transition et de nomadisme ont été expliqués par Soro Daouda.
Le transhumant, quand il bouge, il revient.
Généralement, quand il doit faire la transhumance, il a un noyau qui est là qui lui permet de produire du lait et c'est l'autre partie qui s'en va et qui revient. Mais le nomadis, lui, il s'en va en fonction de l'évolution du climat, des températures, en tout cas de la position fourragère dans les zones. Lui, il sort, il ne sait pas quand il va revenir. Mais et ceux qui viennent maintenant, eux, ça n'a rien à voir avec la transhumance. C'est des gens qui sont en train de fuir une situation et comme c'est des pasteurs, ils veulent vraiment sécuriser les cheptels parce que c'est carrément leur vie. Voilà, donc ils ne peuvent pas fuir et puis laisser le cheptel derrière. Ils préfèrent quand même fuir avec le cheptel. Souvent même, ils n'arrivent pas à fuir avec tout le cheptel, mais quand même, ils ont un petit noyau avec lequel ils arrivent à se déplacer. Et donc ça, c'est vraiment différent de la transhumance.
L'existence de mécanismes de gestion partagée des terres et des ressources naturelles insuffisamment expliquées est un facteur clé des conflits persistants qu'il faut bien réexpliquer aux acteurs des deux filières, souhaite Soro Daouda de l'Association des éleveurs.
D'apprendre encore à nos parents comment est-ce qu'il faut gérer à l'amiable. C'est-à-dire que depuis la base, ces conflits, pour ne pas toujours faire recours soit à la justice ou bien à la gendarmerie, qui encore pourrait être une source pour actiser flamme au niveau des populations rurales.
Les mutations climatiques et l'itinérance du bétail, des animaux avalent les noix de cajou pour satisfaire le besoin en eau et récupérer dans les excrétats par les éleveurs pour une vente éventuelle amplifie les conflits. Dès lors, la superposition des terres agricoles et pastorales combinées à des périodes d'exploitation divergentes intensifie les rivalités.
La production de 2024 est vraiment très médiocre. En ce sens que les pluies ont très vite cessé et donc les producteurs du coup n'ont pas eu de céréales, notamment le maïs. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout le monde se rebat aujourd'hui sur l'anacarde. Aujourd'hui, le prix est fixé à 425 francs. Des agriculteurs qui veulent même pas que des animaux passent à proximité, pas dans leur champ, mais à proximité de leur champ, sous prétexte qu'ils vont enlever des noix de cajou. Et vraiment, c'est une situation qui est malheureusement qui est déplorable. Ces formations-là, les modules vraiment devraient s'appuyer sur ce genre de formation. Certes, les animaux ils peuvent avaler des noix de cajou, mais un bovin, aucun bovin ne peut consommer plus d'un demi-kilo de noix de cajou. Impossible. Et même si il s'avérait qu'on est à des situations pareilles, il serait quand même intéressant que, en tout cas au niveau village, qu'on puisse régler ça tranquillement à l'amiable.
Les barrages dédiés à l'élevage sont détruits. La dizaine fonctionnelle réhabilitée ou construite reste insuffisante et disparate.
La ressource en eau, c'est l'un des majeurs problèmes. Je prends le cas de la région de Bonkani, avec l'appui de l'ex-Sodepra qui avait pu réaliser jusqu'à 41 barrages dans la région de Bonkani. Des barrages qui ont été réalisés dans les années 1900 aujourd'hui. Sur les 41 barrages, nous avons pratiquement une dizaine qui sont encore fonctionnels. Comment est-ce qu'on pourrait accéder à l'eau? Et voilà un problème. Nous étions déjà dans une situation où on n'en finissait pas avec les conflits, mais voilà une autre situation qui, depuis 2013, avec l'afflux des réfugiés, également avec le cheptel sur nos terres, vraiment est venu encore accentuer, est venu accroître ces conflits entre agriculteurs et éleveurs. Même en saison sèche, c'est préférable que l'aliment reste à côté d'un point d'eau que d'aller chercher du forage ailleurs. Pour dire que l'eau est vraiment très importante pour la survie du bétail.
Les plans d'eau des rivières et marigots sont saccagés et dénudés par le fonds agricole qui n'accorde plus de chance à la consommation humaine et animale de l'eau à une période de l'année.
40 ans derrière, les marigots c'était des endroits qui étaient touffus, qui faisaient même peur à des enfants. Les enfants avaient peur d'aller puiser de l'eau, tellement c'était touffu. Mais aujourd'hui, comment sont nos marigots? On a tout défriché, on a tout abattu les arbres et on va même à faire des cultures dans le nid des marigots. Comment est-ce qu'on pourra maîtriser la source d'eau? Non.
Le cadre juridique et les politiques restent insuffisamment clairs et adaptés aux réalités. Les postes d'entrée, checkpoint, de comptage et de traitement sanitaire du bétail n'existent que de nom. La frontière devenue poreuse ne facilite plus une coexistence harmonieuse entre les deux groupes. Termine sur ce point le coordinateur de l'Association des éleveurs de bovins du Bonkani, Soro Daouda.
Le conseil des ministres, qu'on fixe le quota des animaux, des transhumants qui doivent rentrer sur le territoire par an. Ça, c'est ce que les tests, la loi de 2016 prévoit. Mais malheureusement, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à faire. Puisque les portes d'entrée, aujourd'hui, elles sont poreuses. Il y a officiellement des portes d'entrée. Mais pour ce que nous savons tous, ces routes peuvent être détournées à tout moment, compte tenu du contexte. Il peut même décider d'aller construire une ligne droite, mais arrivé là, il y a une situation qui ne lui permet pas de continuer. Il va aller faire un long détour pour aller jusqu'à ce point à qui il doit atteindre parce que c'est là que la sentinelle a identifié.
Des couloirs de passage ont été négociés par les éleveurs.
Nous, on a pu sécuriser 60 km de couloirs, de pistes de transhumance dans la région de Boukani, qui ont été négociés et balisés. Et il y a des comités de suivi qui sont mis en place.
Le processus de tracé des couloirs de transhumance prend du temps et est très coûteux, clarifie Bredou Christel de l'OIM.
Il n'y a pas de porte officielle en tant que telle parce que, justement, les couloirs de transhumance ne sont pas définis en tant que telle. C'est vraiment maintenant que les acteurs et les partenaires sont en train de soutenir l'État pour améliorer des routes de pâturage. Mais en même temps, baliser des pistes de pâturage, ça ne suffit pas. Il faut avoir aussi des points d'eau parce que les troupeaux sont à la recherche d'eau. L'autre problème qui se pose, c'est la durée des projets aussi qu'on met en œuvre et puis les fonds. Parce que les négociations, ça prend beaucoup de temps et ça demande beaucoup d'argent aussi.
Des solutions en local sont explorées comme la mise en place de parcs à bétail de nuit et des champs de pâture avec une espèce d'herbe, le panicum. Le partage d'expériences avec Guy Franck du MIRA, ministère des ressources animales et halieutiques.
Quand on a créé le parc de nuit, les animaux restent là, les transhumants, quand ils passent, ils viennent séjourner là, ils continuent. Aussi la bouse de vache qui reste aussi, on prend aussi, les femmes viennent chercher pour faire des chats de l'engrais pour les cultures maraîchères. Donc ça fait que c'est aussi une technique aussi de gestion, de conflit, bien de vivre ensemble au fait. Donc c'est un peu ces missions à que le MIRA aussi participe. J'ai participé à cette mission pour appuyer encore Anyandegué aussi avec la CLJA d'Abakolankara. On a participé aussi avec l'OIPR. On a fait des champs témoins de Panicom, où on a réuni les communautés, que ce soit éleveurs, agriculteurs, en tout cas tous ceux qui vivent dans le village, tu es commerçant, tu es quoi, on vous réunissait pour aller ensemble mettre la main à la pâte pour pouvoir créer ces champs témoins de Panicom, pour pouvoir donner l'exemple pour un élevage un peu truc quoi.
Sur les 12 modules de formation des acteurs sociaux, 2 sont classés par ordre de priorité.
Kwasi Raju, chef de projet pour l'ONG Clira.
25 votants. Premier module, analyse des causes du jus votant, 72 12%. Ensuite, on a la participation des jeunes qui viennent en deuxième position, 17 votants, 68%.
La raison expliquée de l'implication des jeunes.
Le projet RAJDEV contient 3 extraits. Le premier extrait, c'est plus pour la section ados et jeunes, où nous faisons des démultiplications, des causeries éducatives sur les life skills, qu'on appelle couramment les compétences de vie courante. À côté de ça, il y a ce volet qui demande l'atelier d'aujourd'hui, où il faut faire des modules de formation des communautés Europort dans la région du Boukani pour envoyer les jeunes à plus s'engager pour leur communauté.
Ces jeunes et femmes qui seront impliqués doivent être outillés pour leur autonomie, persiste et signe le directeur au ministère de la Solidarité en charge du suivi et évaluation des acteurs sociaux, Dr Angelo Christian Arnaud.
Sensibiliser les jeunes sur leur rôle dans le renforcement de la cohésion sociale et de la consolidation de la paix. Les différentes possibilités ou bien les différentes actions mises à disposition des jeunes pour que ces derniers-là puissent vraiment s'émanciper en termes, par exemple, d'activités génératrices de revenus, opportunités d'emploi, processus permanent de consultation des jeunes en fonction des différentes dynamiques sociales, en fonction des différentes évolutions. Il faut que puisse s'inscrire l'action des jeunes dans un processus permanent de consultation.
Pour ce qu'en pense cette jeune fille blogueuse.
Je suis Sal Khadija, étudiante en marketing management et jeune blogueuse UNICEF. Nous sommes la génération de demain. Nous sommes les plus nombreux. Nous sommes instrumentalisés pour faire les violences. Nous aurons des supports de communication sur la paix et la cohésion sociale. Si les jeunes sont formés sur la paix et la cohésion sociale, il n'y aura plus de conflits entre les différentes communautés. Il y aura plus de paix et de cohésion sociale.
En cette année électorale présidentielle, la vigilance doit être démise, avertie et conclue Abdoulaye Brahima.
Représentant du président du conseil régional de Boukani. Nous sommes en année électorale. Pour ne pas qu'on instrumentalise la jeunesse, il faut dès maintenant leur parler de la paix et de la cohésion sociale.
« Il faut noter que les conflits entre agriculteurs et éleveurs en Côte d'Ivoire et particulièrement dans la région du Bunkani découlent principalement de la concurrence pour l'utilisation des terres et sols, des ressources naturelles, eau, pâturage, forêt et les saisons qui sont des déterminants du risque potentiel des tensions persistantes. Ceci nécessite des politiques inclusives, une clarification foncière et une gestion durable des ressources naturelles pour atténuer les tensions. Et l'implication des jeunes et des femmes, fer de lance de demain et leur engagement demeure indispensable pour la consolidation de la paix et de la cohésion sociale dans le Bunkani. Ce reportage vous a été offert par la Radio de la Paix avec Jérôme Kwasi Krou de Bouna. Bonne suite de programme.
C'était Reportage.
Radio de la Paix.